Monsieur de Camors. Première partie. Chapitre 1. Un soir du mois de mai, vers 11 heures, un homme d'une cinquantaine d'années, fort bien fait et de haute mine, descendait d'un coupé dans la cour d'un petit hôtel de la rue Barbet de Jouy. Il monta d'un pas de maître les marches du perron. Deux ou trois domestiques l'attendaient dans le vestibule. L'un d'eux le suivit dans un vaste cabinet de travail situé au premier étage et qui communiquait avec une chambre à coucher par une arcade drapée. Le valet raviva les feux des lampes qui éclairaient ces deux pièces. Et il allait se retirer quand son maître lui dit « Mon fils n'est pas rentré ?»«
Non, monsieur le comte. »«
Monsieur le comte n'est pas souffrant ?»«
Souffrant ? Pourquoi ?»«
Monsieur le comte est pâle. »« J'ai eu un peu froid ce soir au bord du lac. »«
Monsieur le comte ne désire rien ?»«
Rien. » Le domestique sortit. Resté seul, le comte s'approcha d'un meuble curieusement travaillé à la mode italienne et y prit une boîte longue et plate en bois d'ébène. Elle contenait deux pistolets qu'il s'occupa de charger avec soin. Il y ajusta ensuite des capsules qu'il écrasa légèrement avec le pouce sur la cheminée de l'arme. Cela fait, il consulta sa montre, alluma un cigare et pendant une demi-heure, le bruit régulier de ses pas résonna sourdement sur le tapis de la galerie. Son cigare fini, il s'arrêta, parut réfléchir, et entra dans la chambre voisine en portant ses armes. Cette pièce, comme la précédente, était meublée avec une élégance sévère et ornée avec goût. Quelques tableaux, tous de maître, des marbres, des bronzes, des ivoires. Le comte jeta un regard d'intérêt singulier sur l'intérieur de cette chambre qui était la sienne, sur les objets familiers, sur les tentures sombres, sur le lit préparé pour le sommeil. Puis, se dirigeant vers une table qui était placée dans l'embrasure d'une fenêtre, il y posa les pistolets, s'assit, médita quelques minutes la tête dans ses mains et se mit à écrire ce qui suit. À mon fils. Mon fils. La vie m'ennuie. Je la quitte. La vraie supériorité de l'homme sur les créatures inertes ou passives qui l'entourent, c'est de pouvoir s'affranchir à son gré des servitudes fatales qu'on nomme les lois de la nature. L'homme peut, s'il veut, ne pas vieillir. Le lion ne le peut pas. Méditez sur ce texte. Toute force humaine est là. La science le dit et le prouve. L'homme, intelligent et libre, et sur cette planète un animal imprévu. Produit d'une série de combinaisons et de transformations inattendues, il éclate au milieu de la soumission des choses, comme une dissonance et une révolte. La nature l'a engendré sans l'avoir conçu. C'est une dinde qui a couvé sans le savoir un œuf d'aigle. Effrayée du monstre, elle a prétendu l'enchaîner. Elle l'a surchargé d'instincts dont il a fait des devoirs, des règlements de police dont il a fait des religions. Chacune de ces entraves brisées, chacune de ces servitudes vaincues, marque un pas dans l'émancipation virile de l'humanité. C'est vous dire que je meurs dans la foi de mon siècle. Je crois à la matière incréée, féconde, toute-puissante, éternelle. C'est la nature des anciens. Il y a eu, dans tous les temps, les sages qui ont entrevu la vérité. Mûre aujourd'hui, elle tombe dans le domaine commun. Elle appartient à tous ceux qui sont de taille à la portée, car cette religion dernière de l'humanité est le pain des forts. Elle a sa tristesse. Elle isole l'homme. Mais elle a sa grandeur, car elle le fait libre. Elle le fait Dieu. Elle ne lui laisse des devoirs qu'envers lui-même. Elle ouvre un champ superbe aux gens de tête et de courage. La foule reste encore, et restera toujours, plus ou moins courbée sous le joug de ces religions mortes, sous la tyrannie des instincts. On verra toujours plus ou moins ce que vous voyez en ce moment à Paris, une société dont le cerveau est athée et le cœur dévot. Au fond,
Elle ne croit pas plus au Christ qu'à Jupiter, mais elle continue machinalement de bâtir des églises. Elle n'est même plus déiste. Elle supprime radicalement au fond de sa pensée la vieille chimère du Dieu personnel et moral, témoin, sanction et juge. Mais elle ne dit pas un mot. Elle n'écrit pas une ligne, elle ne fait pas un geste dans sa vie publique ou privée qui ne soit l'affirmation de cette chimère. Cela est utile, peut-être, mais cela est méprisable. Sortez de ce troupeau, recueillez-vous, et écrivez votre catéchisme vous-même sur une page blanche. Quant à moi, j'ai manqué ma vie pour être né quelques années trop tôt. La terre et le ciel étaient alors encombrés de ruines. On n'y voyait pas. La science, d'ailleurs, était relativement en enfance. De plus, j'avais contre les doctrines du monde nouveau les préventions et les répugnances naturelles à mon nom. Je ne comprenais pas qu'il y a quelque chose de mieux à faire que de bouder puérilement contre son vainqueur. C'est de reconnaître que ses armes sont bonnes, de les lui prendre et de l'en écraser. Bref, faute d'un principe d'action, j'ai flotté au hasard. Ma vie n'a pas eu de plan. Je n'étais qu'un homme de plaisir. C'est trop peu. Vous serez plus complet si vous voulez m'en croire. Que peut être un homme de ce temps qui a le bon sens et l'énergie de conformer sa vie à sa foi? Je pose la question, c'est à vous de la résoudre. Je ne puis que vous livrer à la hâte quelques idées que je crois justes et que vous creuserez à loisir. Le matérialisme n'est une doctrine d'abrutissement que pour les sots ou pour les faibles. Assurément, je ne lis dans son code aucun des préceptes de la morale vulgaire, de ce que nos pères appelaient la vertu. Mais je lis un grand mot qui peut suppléer à bien d'autres, l'honneur, c'est-à-dire l'estime de soi. Il est clair qu'un matérialiste ne peut être un saint, mais il peut être un gentilhomme. C'est quelque chose. Vous avez d'heureux dons, mon fils. Je ne vous connais qu'un devoir au monde. C'est de les développer largement et d'en jouir avec plénitude. Usez sans scrupule des femmes pour le plaisir, des hommes pour la puissance, mais ne faites rien de bas. Pour que l'ennui ne vous chasse pas, comme moi, prématurément de ce monde dès que la saison du plaisir sera close, ménagez à votre âge mûr les émotions de l'ambition et de la vie publique. Ne vous engagez pas avec le gouvernement régnant. Il vous est réservé d'en entendre faire l'éloge par ceux qui l'auront renversé. C'est la mode française. Chaque génération veut sa proie. Vous sentirez bientôt la poussée de la génération nouvelle. Préparez-vous de loin à en prendre la tête. En politique, mon fils, vous n'ignorez pas que chacun a les principes de son tempérament. Les bilieux sont démagogues, les sanguins sont démocrates et les nerveux sont aristocrates. Vous êtes à la fois sanguin et nerveux. C'est une belle constitution. Elle vous permet de choisir. Vous pouvez, par exemple, être aristocrate pour votre compte personnel et démocrate pour le compte d'autrui. Vous ne serez pas le seul. Rendez-vous maître de toutes les questions qui peuvent passionner vos contemporains, mais ne vous passionnez vous-même pour aucune. En réalité, tous les principes sont indifférents. Ils sont tous vrais ou faux, suivant l'heure. Les idées sont des instruments dont vous devez apprendre à jouer opportunément pour dominer les hommes. Dans cette voie encore, vous aurez des camarades. Sachez, mon fils, qu'arrivé à mon âge et lassé de tout, vous aurez besoin de sensations fortes. Les jeux sanglants des révolutions vous seront alors comme une amourette à 20 ans. Mon fils, je me fatigue. Je vais me résumer. Être aimé des femmes, être craint des hommes, être impassible comme un dieu devant les larmes des unes et le sang des autres, finir dans une tempête, voilà la destinée que j'ai manquée et que je vous lègue. Vous êtes fort capable, avec vos grandes facultés, de l'accomplir intégralement, si vous vous défaites de je ne sais quelle faiblesse de cœur que j'ai remarquée en vous, et qui vous vient sans doute du lait maternel. Tant que l'homme naîtra de la femme, il y aura en lui quelque chose de défectueux. Je vous le répète en terminant. Appliquez-vous à secouer toutes les servitudes naturelles, instinct, affection, sympathie, autant d'entraves à votre liberté et à votre force. Ne vous mariez pas si quelque intérêt supérieur ne vous y pousse. Si vous vous mariez, n'ayez point d'enfants. N'ayez point d'amis. César, devenu vieux, eut un ami, qui fut Brutus. Le mépris des hommes est le commencement de la sagesse. Modifiez votre escrime, votre jeu est trop large. Ne vous fâchez point, riez peu,
Ne pleurez jamais. Adieu.
Camor. À les faibles lueurs de l'aube passaient à travers les lames des persiennes. Un oiseau matinal commençait à chanter sur un marronnier voisin de la fenêtre. Un monsieur de Camor dressa la tête et prêta une oreille distraite à ce bruit qui l'étonnait. Voyant que le jour naissait, il plia avec une sorte de hâte les pages qu'il venait d'écrire, apposa son cachet sur l'enveloppe et mit la suscription « Pour le comte Louis de Camor » et se leva. Grand amateur d'œuvres d'art, M. de Camor conservait religieusement un magnifique ivoire du XVIe siècle qui avait appartenu à sa femme. C'était un Christ dont la blancheur mate se détachait sur un large médaillon de velours. Son œil rencontra la pâle et triste effigie. Il l'y laissa attacher un moment avec une persistance étrange. Puis, souriant amèrement, il saisit un des pistolets d'une main ferme et l'approcha de sa tempe. Un coup de feu retentit. La chute d'un corps pesant ébranla le parquet. Des fragments de cervelle s'agitèrent sur le tapis. Monsieur de Camor était entré dans l'éternité, son testament à la main. À qui se dressait ce document? Sur quel terrain allait tomber cette semence? Louis de Camor avait à cette époque 27 ans. Sa mère était morte jeune. Il ne paraissait pas qu'elle eût été particulièrement heureuse avec son mari. Son fils s'en souvenait à peine, comme d'une jeune femme jolie et pâle qui chantait à demi-voix pour l'endormir et qui pleurait souvent. Il avait été élevé principalement par une maîtresse de son père. Elle se nommait la vicomtesse Doyy. C'était une veuve assez bonne femme. Sa sensibilité naturelle et la douce facilité de mœurs qui règne à Paris lui avaient permis de s'occuper à la fois du bonheur du père et de l'éducation du fils. Quand le père lui échappa, ce qui ne tarda guère, il lui laissa l'enfant pour la calmer un peu par ce signe de confiance et d'amitié. On le lui menait trois fois la semaine. Elle l'habillait, le peignait, le choyait et le conduisait avec elle à la messe. Elle le faisait jouer aussi avec un Espagnol de bonne mine qui, depuis quelque temps, lui servait de secrétaire. Elle ne négligeait pas à l'occasion de placer quelques préceptes de saine morale. Ainsi, l'enfant l'ayant vu un soir, non sans surprise, déposer un baiser sur le front de son secrétaire, et lui en dit avec la rude franchise de son âge « Pourquoi embrasses-tu monsieur qui n'est pas ton mari ?»« Mon ami, répondit la vicomtesse, parce que le bon Dieu nous commande d'être charitables et affectueux pour les pauvres, les infirmes et les exilés. » Or, M. Pérez est exilé. Louis de Camor eut mérité de meilleurs soins. C'était un enfant généreux. Ses camarades du collège Louis le Grand se souviennent de sa chaleur d'âme et de sa grâce naturelle qui lui faisait pardonner ses aptitudes et ses succès pendant la semaine, ses bottes vernies et ses gants lilas le dimanche. Vers la fin de ses études, il s'était lié particulièrement avec un pauvre bouclier nommé Lescande, qui excellait aux mathématiques, mais qui était d'ailleurs fort mal bâti, gauche, d'une timidité sauvage et ridiculement tendre sous son épaisse enveloppe. On l'appelait familièrement « tête de loup », par allusion à sa chevelure touffue et rebelle. L'élégant Camor fit taire les railleurs en couvrant ce brave garçon de son amitié. Lescande lui en sut un gré infini et l'adora. Il ouvrit pour son ami la triple serrure de son excellent cœur et en laissa sortir un secret important. Il aimait. Il aimait une fillette blonde qui était sa cousine et qui était pauvre comme lui. C'était même une circonstance providentielle qu'elle fût pauvre. Autrement, il n'aurait jamais osé élever sa pensée jusqu'à elle. Un triste événement les avait rapprochés. Elle avait perdu son père, chef de division dans un ministère, et elle restait avec sa mère dans une situation étroite. Lescande, à sa dernière sortie, elle avait surprise avec des manchettes sales. Il avait, à cette occasion, reçu d'elle le billet suivant. « Cher cousin, pardonne-moi mes manchettes pas trop blanches. Je te dirai que nous ne pouvons plus changer de manchette que trois fois par semaine, maman et moi. Pour maman, on ne s'en aperçoit pas parce qu'elle est propre comme un oiseau. Moi aussi, mais quand j'étudie mon piano, mes manchettes frottent. Après cette explication, mon bon Théodore, j'espère que tu m'aimeras tout de même. Juliette. » Lescande en avait pleuré. Heureusement, il avait son dessein. Il serait architecte. Juliette lui avait promis de l'attendre. Dans une dizaine d'années, il serait mort à la peine, où il habiterait délicieusement avec sa cousine une maisonnette dont il montra le plan et même plusieurs plans à Camon. Voilà la seule habitation que j'ai et que je puisse avoir, ajoutait l'escande. Toi, c'est différent. Tu es né pour de grandes choses. Écoute, mon vieux l'escande, répondait Camor, qui achevait alors triomphalement sa rhétorique. Je ne sais si ma destinée sera vulgaire, mais je suis certain que mon âme ne l'est pas. J'y sens des ardeurs, des élans, qui me donnent tantôt des joies, tantôt des souffrances inexprimables. Je voudrais découvrir un monde, sauver une nation, aimer une reine. Je ne conçois que des ambitions ou des amours illustres. Les amours, au surplus, je n'y songe guère. Il faut à mon activité un ressort plus noble. Je prétends me dévouer à une des grandes causes sociales, politiques ou religieuses qui agitent le monde à cette heure du siècle. Quelle sera cette cause, je ne le sais pas encore. Je n'ai pas encore d'opinion bien arrêtée. Mais dès que je serai sorti du collège, je chercherai la vérité et je la découvrirai aisément. Je lirai tous les journaux. Paris est d'ailleurs un foyer intellectuel tellement lumineux qu'il doit suffire d'ouvrir les yeux avec bonne foi et avec indépendance pour trouver le vrai chemin. Je suis dans d'excellentes conditions pour cela. Quoique, bon gentilhomme, je n'ai point de préjugés. Mon père me laisse libre, il est lui-même très éclairé et très libéral. J'ai un oncle républicain, j'ai une tante légitimiste qui de plus est une sainte. J'ai un oncle conservateur. Je ne m'en vante pas de celui-là. Mais c'est pour te dire qu'ayant un pied dans tous les partis, je suis tout porté pour les comparer entre eux et pour bien choisir. Une fois maître de la sainte vérité, mon vieux l'escande, tu peux compter que je la servirai de ma plume, de ma parole et de mon épée jusqu'à la mort. » De tels discours, prononcés avec une émotion sincère et accompagnés de serments de main chaleureux, tiraient des larmes au vieux l'escande dit tête de loup. 8 ou 9 ans plus tard, Louis de Camor sortait à cheval un matin du petit hôtel qu'il occupait alors avec son père. Rien n'est gai comme Paris le matin. Le matin est partout l'âge d'or de la journée. Le monde, à cette heure charmante, semble peuplé de braves gens qui s'aiment entre eux. Paris, qui ne se pique pas de candeur, prend lui-même sous cette influence heureuse un air d'innocente allégresse et d'aimable cordialité. Les petits voiturins à sonnette se croisent rapidement dans la rue et font penser aux campagnes couvertes de rosée. Les cris rythmés du vieux Paris jettent leurs notes aiguës à travers le bourdonnement profond de la grande cité qui s'éveille. On voit les concierges goguenards balayer les trottoirs blancs. Les marchands à demi vêtus enlèvent avec fracas les volets des boutiques. Des groupes de palefreniers en toque écossaise fument et fraternisent sur le seuil des hôtels. On entend les questions de bon voisinage, les menus propos du réveil, les pronostics du temps, s'échanger d'une porte à l'autre avec sympathie. Les jeunes modistes attardés descendent vers la ville d'un pied léger, font ça et là un brusque temps d'arrêt devant un magasin qui s'ouvre et reprennent leur vol comme des mouches qui viennent de sentir une fleur. Les morts eux-mêmes, dans ce gai Paris matinal, paraissent s'en aller gaiement au cimetière avec leurs cochers gaillards qui se sourient l'un à l'autre en passant. Souverainement étranger à ces impressions agréables, Louis de Camor, un peu pâle, l'œil à demi-clos, un cigare entre les dents, s'avançait dans la rue de Bourgogne au petit pas de son cheval. Il prit le galop de chasse dans les Champs-Élysées, gagna le bois de Boulogne et le parcourut à l'aventure. Le hasard l'en fit sortir par l'avenue Maillot, qui n'était pas encore aussi peuplée qu'on la voit aujourd'hui. Déjà cependant, quelques jolies habitations, précédées de pelouses verdoyantes, s'y élevaient dans des buissons de lilas et de clématites. Devant la grille ouverte d'une de ces maisonnettes, un monsieur jouait au cerceau avec un tout jeune enfant à tête blonde. L'âge de ce monsieur était incertain, on pouvait lui donner de 25 à 40 ans. Une cravate blanche l'ornait dès l'aurore. Des favoris épais et courts, taillés comme les buis de Versailles, dessinait sur ses joues 2 triangles isocèles. Camor, s'il aperçut ce personnage, ne paraît lui accorder aucune espèce d'intérêt. C'était pourtant le vieux l'escande. Il est vrai qu'il s'était perdu de vue depuis plusieurs années, comme il arrive aux plus chauds amis de collège. L'escande, cependant, dont la mémoire était apparemment plus fidèle, sentit son cœur bondir à l'aspect de ce jeune cavalier majestueux qui s'approchait. Il fit un geste pour s'élancer. Un sourire épanoui s'ébaucha sur sa bonne figure et se termina par une grimace vague. Il était évidemment oublié ou méconnu. Camor n'était plus qu'à 2 pas de lui. Il allait passer, et son beau visage ne donnait pas le moindre signe d'émotion. Tout à coup, sans qu'un seul pli de sa physionomie eût remué, il arrêta son cheval, ôta son cigare de sa bouche et dit d'une voix tranquille Tiens, tu n'as plus ta tête de loup. Tu me reconnais? S'écria l'escande.
Parbleu, pourquoi pas?
Je craignais à cause de mes favoris.
Tes favoris ne te changent pas. Ils conviennent à ton genre de beauté.
Qu'est-ce que tu fais là?
Là? Mais je suis chez moi, mon ami. Entre donc 2 minutes, je te prie.
Pourquoi pas? Dit Camor avec le même accent d'indifférence suprême.
Il donna son cheval au domestique qui le suivait et franchit la grille du jardin, soutenu, poussé, caressé par la main tremblante de l'escande. Le jardin était de dimension médiocre, mais fort soigné et plein d'arbustes rares à larges feuilles. Dans le fond, une petite villa dont le goût italien présentait sa gracieuse façade.
« Tiens, c'est gentil, ça, » dit Camor.
« Tu reconnais mon plan numéro 3, n'est-ce pas ?»«
Numéro 3, parfaitement. Et ta cousine est-elle dedans ?»«
Elle est là, mon ami, » dit l'escande à demi-voix, en indiquant de la main une grande fenêtre à balcon qui surmontait le perron de la villa et dont les persiennes étaient closes.
« Elle est là, et voici notre fils. »
Camor laissa flotter sa main sur les cheveux de l'enfant.
« Diable, tu n'as pas perdu de temps. »«
Ainsi, tu es heureux, mon brave ?»«
Tellement heureux, mon ami, que j'en suis inquiet. Le bon Dieu est trop bon pour moi, ma parole. Je me suis donné de la peine, c'est vrai. Figure-toi que je suis allé passer 2 ans en Espagne, dans les montagnes, dans un pays infernal. J'ai bâti là un palais de fées pour le marquis de Buenavista, un très grand seigneur. Il avait vu mon plan à l'exposition. » Et s'était monté la tête là-dessus. C'est ce qui a commencé ma fortune. Du reste, ce n'est pas mon métier tout seul qui a pu m'enrichir aussi vite, tu comprends. Mais j'ai eu une série de chances incroyables. J'ai fait des affaires magnifiques sur des terrains. Et très honnêtement, je te prie de croire. Je ne suis pourtant pas millionnaire. Tu sais que je n'avais rien et ma femme pas davantage. Enfin. Ma maison construite, il me reste 10 000 francs de rente. Ce n'est guère pour nous entretenir sur ce pied-là, mais je travaille. Et j'ai si bon courage, mon cher. Ma pauvre Juliette est si aise dans ce paradis.
Elle n'a plus de manchette sale, dit Camor.
Je t'en réponds. Elle aurait même une légère tendance au luxe, comme toutes les femmes, tu sais.
Mais ça me fait plaisir que tu te rappelles nos bêtises du collège. Du reste, moi, à travers toutes mes péripéties, je ne t'ai pas oublié un instant. J'avais même une envie folle de t'inviter à ma noce. Mais, ma foi, je n'ai pas osé. Tu es si brillant, si lancé, avec tes chevaux. Ma femme te connaît bien, va. D'abord, je lui ai parlé de toi 100 000 fois. Et puis, elle adore tes courses. Elle est abonnée au sport. Elle me dit, c'est encore un cheval de ton ami qui a gagné. Et nous nous réjouissons de ta gloire en famille, mon cher.
Une teinte rosée passa sur les joues de Camor. Vous êtes vraiment trop bon, dit-il.
Ils firent quelques pas en silence sur l'allée finement sablée qui tournait autour la pelouse.
Et toi, cher ami, reprit l'escande, j'espère que tu es heureux de ton côté.
Moi, mon ami, dit Camor. Étonnamment, mon bonheur est simple, mais sans nuages. Je me lève généralement le matin, je vais au bois, puis au cercle, et puis au bois, et je retourne au cercle. S'il y a le soir une première représentation quelque part, j'y vole. Ainsi, hier soir, on donnait une pièce nouvelle qui est vraiment ravissante. Il y a dedans une chanson qui commence par « Il était un pivert, un petit pivert, un jeune pivert ». Au refrain, on imite le cri du pivert. Eh bien, c'est charmant. Tout Paris va chanter ça pendant 1 an avec délice. Je ferai comme tout Paris et je serai heureux.
Mon Dieu, mon ami, dit gaiement l'escande, si ça suffit à ton bonheur.
Ça et les principes de 89, dit Camor en allumant un nouveau cigare aux cendres du premier. Leur dialogue fut interrompu par une fraîche voix de femme qui se fit entendre derrière la persienne du balcon et qui dit « Tu es là, Théodore ?» Camor leva les yeux et vit une main fort blanche qui se repliait au dehors sur une des lames de la persienne fermée et qui baignait dans un rayon de soleil.
« Et c'est ma femme !» dit vivement l'escande. « Cache-toi là !»
Il le rejeta derrière un massif de catalpa, prit un air de joyeuse malice en se tournant vers le balcon et répondit.
« Oui, ma chère.
Quoi ?
Maxime est avec toi ?
Oui, le voilà.
« Bonjour, mère !» cria l'enfant.
« Fait-il beau ce matin ?» reprit la voix.
« Très beau. Tu vas bien ?»«
Je ne sais pas. J'ai trop dormi, je crois. » Elle ouvrit la persienne, en poussa les volets, et voilant d'une main ses yeux éblouis par le jour, elle parut sur le balcon. C'était une femme dans la fleur de la jeunesse, élancée, souple, gracieuse,
et qui paraissait plus grande qu'elle n'était dans l'ampleur flottante de sa robe de chambre bleue. Des bandelettes de la même nuance s'entrelaçaient à la grecque dans ses cheveux châtains, que la nature, l'art et la nuit avaient chiffonnées, crêpées et bouclées à l'envi sur sa tête mignonne. Elle s'accouda sur le balcon, bâilla en montrant toutes ses dents et regardant son mari. « Pourquoi tu l'air bête ?» lui dit-elle. Tout à coup, elle aperçut Camor, que l'intérêt du moment avait à demi tiré de son abri. Elle eut un petit cri farouche, rassembla ses jupes à la diable et se sauva dans la chambre. Louis de Camor, depuis le collège jusqu'à 7 heures, ne s'était pas fait une grande idée de la Juliette qui avait le vieux Lescande pour Roméo. Il éprouva donc une surprise agréable en reconnaissant que son ami était plus heureux à cet égard qu'il ne l'avait présumé. « Je vais être grondé, mon ami, » dit Lescande en riant de tout son cœur. « Et toi aussi, car tu restes à déjeuner avec nous, n'est-ce pas ?» Camor parut hésiter, puis brusquement. « Non, non, impossible, mon ami. J'oubliais, je suis attendu. » Il voulut partir, mais Lescande le retint jusqu'à ce qu'il en eût obtenu la promesse de venir dîner le mardi suivant en famille, c'est-à-dire avec lui, sa femme et sa belle-mère, Madame Mursois. Cette invitation laissa un nuage sur l'esprit de Camor jusqu'au jour fixé. Outre qu'il n'aimait pas les dîners de famille, il se souvenait plus qu'il n'eût voulu de la scène du balcon. La bonhomie indiscrète de Lescande l'irritait et le touchait à la fois. Il se sentait appelé à jouer un sot rôle près de cette jolie femme qu'il pressentait coquette et que ses souvenirs d'enfance et d'honneur lui rendaient sacré. Bref, il était d'humeur assez maussade quand il descendait de son dog-cart le mardi soir devant la petite villa de l'avenue Maillot. L'accueil de Madame Lescande et de sa mère lui remit un peu le cœur. Elles lui parurent être ce qu'elles étaient en effet, deux honnêtes personnes, pleines d'aisance et de distinction. La mère avait été belle, elle avait été veuve de bonheur, il n'y avait pas une tache dans sa vie. Une sorte de délicatesse exquise lui tenait lieu des principes solides que le siècle ne comporte guère. De même que beaucoup de femmes du monde, elle avait le goût de la vertu, comme l'hermine a le goût de la blancheur. Le vice lui répugnait moins comme un mal que comme une souillure. Sa fille avait reçu d'elle ces instincts de chasteté élégante qui se cachent plus souvent qu'on ne le croit sous les vives apparences des mondaines. Ces deux aimables femmes avaient cependant un travers fâcheux qui leur était commun avec beaucoup de parisiennes de leur temps et de leurs conditions. Malgré beaucoup d'esprit, elles se pâmaient d'une admiration bourgeoise devant cette aristocratie plus ou moins pure qu'on voit étaler tour à tour dans l'avenue des Champs-Élysées, dans les théâtres, sur les champs de course, sur les plages célèbres, sa frivolité affairée et ses vanités rivales. Malgré beaucoup d'honnêteté, elle se montrait friande jusqu'au scandale des aventures les plus équivoques qui pouvaient éclater dans cette région d'élite. C'était leur bonheur et leur gloire de connaître par le menu les moindres détails de la haute vie parisienne, d'en suivre les fêtes, d'en parler l'argot, d'en copier les toilettes, d'en distinguer les livrées. De la sorte, si elle n'était pas la rose, elle vivait près d'elle. Elle s'imprégnait de ses parfums et de ses couleurs, et une telle familiarité les rehaussait singulièrement dans leur propre estime et dans l'estime de leurs amis. Camor, sans occuper encore dans l'Olympe de la mode le rang qu'il devait tenir un jour, y pouvait déjà passer pour un demi-dieu et, à ce titre, il inspirait à Madame Lescande et à sa mère un sentiment de curiosité ardente. Son ancienne liaison avec Lescande avait, d'ailleurs, attaché sur lui leur intérêt particulier. Elle savait le nom de ses chevaux, peut-être savait-elle le nom de ses maîtresses. Il fallut tout leur bon goût naturel pour dissimuler à leur hôte la secrète agitation de leurs nerfs en sa sainte présence. Elles y réussirent pourtant si bien que Camor en fut piqué. Sans être fat, il était jeune, il était habitué à plaire. Il savait que la princesse de Clangoritz lui avait récemment appliqué sa profonde définition de l'homme aimable. Il est aimable car on se sent toujours en danger près de lui. Il lui parut conséquemment un peu anormal que la simple belle-mère et la simple femme du simple Lescande supportassent son rayonnement avec autant de calme. Cela le fit sortir de sa réserve préméditée. Il se mit en frais de coquetterie, non pour Madame Lescande, qu'il s'était juré de respecter, mais pour Madame Mursois. Et il déploya tout le soir, autour de la mère, des grâces qui charmèrent la fille. Lescande, cependant, la bouche ouverte jusqu'au gosier, triomphait du succès de son camarade. Le lendemain, dans l'après-midi, Camor revint de sa promenade au bois par l'avenue Maillot. Madame Lescande travaillait par hasard sur son balcon et lui rendit son salut par-dessus sa tapisserie. Il remarqua qu'elle saluait bien, par un léger plongeon suivi d'un petit coup d'épaule distingué. Quand il vint lui faire visite 2 ou 3 jours après, comme c'était son devoir, il avait réfléchi. Il fut résolument glacial et ne parla à Madame Lescande que des vertus de son mari. Cela fut d'un effet malheureux, car la jeune femme qui avait réfléchi de son côté, dont l'honnêteté était éveillée et qu'une poursuite insolente n'eut pas manqué d'effaroucher, se rassura. Elle s'abandonna sans défiance au plaisir et à la fierté de voir et de faire voir dans son salon une des principales étoiles du ciel de ses rêves. On était alors en mai, et il y avait des courses à la marche le dimanche suivant. Camor y devait courir de sa personne. Madame Mursois et sa fille y entraînèrent Lescande. Camor combla leurs vœux en les faisant pénétrer dans l'enceinte du pesage. Il les promena en outre devant les tribunes. Madame Mursois, à laquelle il donnait le bras et qui n'avait jamais eu l'avantage d'être menée en public par un cavalier revêtu d'une casaque orange et chaussée de bottes à revers, Madame Mursois nageait dans l'azur. Lescande et sa femme la suivaient en partageant son délire. Ces agréables relations continuèrent pendant quelques semaines sans paraître changer de caractère. Un jour, Camor venait s'asseoir auprès de ces dames devant le palais de l'exposition et achevait de les initier aux élégances qui défilaient sous leurs yeux. Un soir, il entrait dans leur loge, daignait y séjourner pendant un acte ou deux et rectifiait leurs notions encore incomplètes sur les mœurs du corps de ballet. Dans ces diverses rencontres, le jeune homme affectait à l'égard de Madame Lescande le langage d'une bonne intimité fraternelle. Peut-être parce qu'il persistait sincèrement dans ses résolutions délicates, peut-être parce qu'il n'ignorait pas que tout chemin mène à Rome, et celui-là aussi sûrement qu'un autre. Madame Lescande, cependant, se rassurait de plus en plus, et, voyant qu'elle n'avait pas à se défendre, comme elle l'avait d'abord appréhendé, elle crut pouvoir se permettre une légère offensive. Aucune femme n'est flattée qu'on l'aime comme une sœur. Camor, un peu inquiet de la tournure que prenaient les choses, fit quelques efforts pour en arrêter le cours. Mais les hommes exercés à l'escrime ont beau vouloir ménager leur adversaire, l'habitude est plus forte, ils ripostent malgré eux. De plus, il commençait à s'éprendre sérieusement de Madame Lescande et de sa mine de jeune chatte à la fois fine et naïve, curieuse et effrayée, provocante et craintive, bref, charmante. Ce fut dans la soirée même où Monsieur de Camor, le père, rentra chez lui pour se tuer, que son fils, passant dans l'avenue Maillot, fut arrêté par Lescande sur le seuil de la villa. « Mon ami, lui dit Lescande, puisque te voilà, fais-moi un grand plaisir. Une dépêche me mande à Melun, je suis forcé de partir à la minute. Reste à dîner avec ces dames. Elles sont toutes tristes. Je ne sais pas ce qu'a ma femme. Elle a pleuré toute la journée sur sa tapisserie. Ma belle-mère a la migraine, ta présence va les remonter. Voyons, je t'en prie. » Camor opposa quelques objections, puis se rendit. Il renvoya son cheval. Son ami le présenta aux deux femmes que l'arrivée de ce convive inattendu parut en effet ranimer un peu. Lescande monta ensuite en voiture et partit, après avoir reçu de sa femme une caresse plus expansive qu'à l'ordinaire. Le dîner fut gai. Il y avait dans l'air comme une odeur de poudre et de danger, dont Madame Lescande et Camor ressentaient secrètement l'excitante influence. Leur animation, encore innocente, se plut à ces riantes escarmouches, à ces brillants combats de barrières qui précèdent les mêlées sinistres. Vers 9 heures, la migraine de Madame Mursois, grâce peut-être à la fumée du cigare qu'on avait permis à Camor, redoubla cruellement. Elle n'y put tenir et annonça qu'elle était forcée de gagner sa chambre. Camor voulait se retirer, mais sa voiture n'était pas arrivée et Madame Mursois insista pour qu'il attendît. « Ma fille, ajouta-t-elle, va vous jouer du piano jusque-là. » La jeune femme, demeurée seule avec son hôte, se mit en effet devant son piano. « Qu'est-ce que vous voulez que je vous joue ? Dit-elle d'une voix remarquablement brève. « Mon Dieu, une valse ?» La valse terminée, il y eut un silence. Pour le rompre, elle se leva et frottant ses mains l'une contre l'autre lentement, avec embarras. « Il me semble qu'il y a de l'orage, dit-elle. Ne croyez-vous pas ?» Elle s'approcha de la fenêtre et sortit sur le balcon où Camor la suivit. Le ciel était pur. En face d'eux s'étendait la lisière sombre du bois. Quelques rayons de lune dormait sur les pelouses. Leurs mains flottantes se rencontrèrent et pendant un moment ne se quittèrent pas.
Juliette, dit le jeune homme d'une voix émue et basse.
Elle tressaillit, repoussa la main de Camor et rentra dans le salon.
« Je vous en prie, dit-elle, allez-vous-en !»
Et elle s'assit brusquement sur sa causeuse en faisant de la main un signe impérieux auquel Camor n'obéit pas. Les chutes des honnêtes femmes sont souvent d'une rapidité qui stupéfie. Peu d'instants après, la jeune Madame Lescande s'éveillait de son ivresse aussi parfaitement perdue qu'une femme peut l'être. Ce réveil ne fut pas doux. Elle mesura du premier coup d'œil l'abîme sans fond, sans issue, où elle était si soudainement tombée. Son mari, sa mère, son enfant tourbillonnèrent dans le chaos de son cerveau comme des spectres. Elle passa sa main sur son front deux ou trois fois en disant « Mon Dieu !» Puis elle se souleva et regarda vaguement autour d'elle comme si elle eût cherché une lueur, un espoir, un refuge. Rien. Sentant la détresse profonde de l'irréparable, sa pauvre âme se rejeta tout entière sur son amant. Elle attacha sur lui ses yeux humides.
« Comme vous devez me mépriser, » dit-elle.
Camor, à demi agenouillé sur le tapis, haussa doucement les épaules en signe de dénégation et lui baisa la main avec une courtoisie distraite.
« N'est-ce pas ? » reprit-elle d'un accent suppliant.
« Dites !» Il eut un sourire étrange et cruel.
« N'insistez pas, dit-il, je vous en prie.
« Pourquoi ? C'est donc vrai alors ? Vous me méprisez ?» Il se dressa brusquement devant elle et, la regardant en face, « Pardieu !» dit-il. À ce mot effroyable, la jeune femme ne répondit rien. Un cri s'étrangla dans sa gorge. Son œil s'ouvrit démesurément, comme dilaté par le contact de quelque poison.
Camor marcha dans le salon, puis il revint vers elle.
« Vous me trouvez odieux, dit-il d'un ton bref et violent, et je le suis en effet. Mais peu m'importe, il ne s'agit pas de moi. Après vous avoir fait beaucoup de mal, il y a un service, un seul, que je puis vous rendre, et je vous le rends. Je vous dis la vérité. Les femmes qui tombent, sachez-le bien, n'ont pas de juge plus sévère que leurs complices. Ainsi, moi, que voulez-vous que je pense de vous? Je connais votre mari depuis son enfance, pour son malheur et pour ma honte. Et il n'y a pas une goutte de sang dans ses veines qui ne vous soit dévouée. Il n'y a pas une fatigue de ses jours, pas une veille de ses nuits que ne vous appartienne. Tout votre bien-être est fait de ses sacrifices. Toutes vos joies sont le fruit de ses peines. Voilà ce qu'il est pour vous. Moi, vous avez vu mon nom dans un journal, vous m'avez vu passer à cheval sous votre fenêtre, et rien de plus. Et c'est assez. Et vous me livrez en une minute toute sa vie avec la vôtre, tout son bonheur, tout son honneur avec le vôtre. Eh bien, tout fainéant, tout libertin de mon espèce, qui abusera comme moi de votre vanité et de votre faiblesse, et qui vous dira ensuite qu'il vous estime, mentira. Et si vous pensez qu'au moins il vous aimera, vous vous trompez encore. Nous haïssons vite des liens qui nous font des devoirs où nous ne cherchons que du plaisir. Notre premier souci dès qu'ils sont formés est de les rompre. Et puis enfin, madame, voulez-vous tout savoir? Les femmes comme vous ne sont pas faites pour des amours pervers comme les nôtres. Leur charme est dans l'honnêteté, et en la perdant, elles perdent tout. Les honnêtes femmes sont gauches à nos ivresses malsaines. Leurs transports sont puérils, leur désordre même est ridicule. Et c'est pour elles un bonheur rare que de rencontrer à leur première faute un misérable comme moi qui le leur dise. Maintenant, tâchez de m'oublier. Adieu. » Et, se dirigeant à pas rapides vers la porte du salon, M. de Camor sortit. Madame Lescande, elle avait écouté immobile et blanche comme du marbre. Quand il eut disparu, elle demeura dans la même attitude mortuaire, l'œil fixe, les bras inertes, souhaitant au fond de l'âme que la mort s'y trompa et la saisit. Au bout de quelques minutes, un bruit singulier qui semblait venir de la pièce voisine frappa ses oreilles. On eût dit le hoquet convulsif d'un rire violent et étouffé. Les imaginations les plus bizarres et les plus terribles se pressèrent dans l'esprit de la malheureuse femme. L'idée à laquelle elle s'attacha fut que son mari était revenu secrètement, qu'il savait tout, et que le rire qu'elle entendait était celui d'un fou. Sentant elle-même sa tête s'égarer, elle s'élança de la causeuse, courut à la porte et l'ouvrit. La pièce voisine était la salle à manger, faiblement éclairée par une lampe suspendue. Elle vit Camor à demi couché sur le parquet, sanglotant follement et battant du front les barres d'une chaise qui l'étreignait de ses bras désespérés. Elle ne trouva pas une parole à lui dire. Elle s'assit près de lui, laissa son cœur éclater et pleura silencieusement. Il se traîna jusqu'à elle, prit le bas de sa robe qu'il couvrit de baisers. Et dès que sa poitrine soulevée et ses lèvres tremblantes lui permirent d'articuler un mot, « Oh » cria-t-il, « pardon, pardon, pardon !» Ce fut tout. Il se releva et partit. Elle entendit l'instant d'après le roulement de la voiture qui s'éloignait. S'il suffisait de n'avoir plus de principe, pour n'avoir plus de remords, les Français des deux sexes seraient généralement plus heureux qu'ils ne le sont. Mais par une inconséquence fâcheuse, il arrive toujours qu'une jeune femme qui ne croit pas à grand-chose, comme Madame Lescande, et qu'un jeune homme qui ne croit à rien, comme Monsieur de Camors, ne peuvent se donner le plaisir de quelque indépendance morale sans en souffrir ensuite cruellement. 1000 vieux préjugés que l'on croyait bien enterrés se redressent soudain dans la conscience et ces morts vous tuent. Louis de Camors, cependant, descendait vers Paris aux grandes allures de son trotteur Fitzsimon, par Black Prince et Annabelle. Éveillant sur son chemin, par l'élégance de sa personne et de son attelage, des sentiments d'envie qui se seraient changés en pitié si les plaies de l'âme étaient visibles. L'amer ennui, le découragement de la vie, le dégoût de soi n'étaient pas pour ce jeune homme des impressions nouvelles. Mais jamais il ne les avait éprouvées avec une intensité aussi aiguë, aussi poignante qu'à cette heure maudite où il fuyait à la hâte le foyer déshonoré du vieux Lescante. Jamais aucun trait de sa vie ne lui avait éclairé d'un pareil jet de lumière la profondeur de sa déchéance morale. En infligeant ce vulgaire affront à cet ami des jours purs, à ce cher confident des généreuses pensées et des fières ambitions de sa jeunesse, c'était l'honnêteté même, il le sentait, qu'il avait mise sous ses pieds. Comme Macbeth, il n'avait pas tué seulement un homme endormi, il avait tué le sommeil. À l'angle de la rue Royale et du boulevard, ses réflexions lui parurent tellement insupportables qu'il pensa successivement à se faire trappiste, à se faire soldat et à se griser. Il s'arrêta à ce dernier parti. Le hasard le servit à souhait dans ce dessein. Comme il mettait pied à terre devant la porte de son cercle, il se trouva face à face avec un jeune homme maigre et pâle qui lui tendit la main en souriant. Il reconnut le prince d'Hérolles. « Tiens, c'est vous, mon prince ? Je vous croyais au Caire. J'en arrive ce matin. Ah, eh bien... « Ça va-t-il mieux, votre poitrine ?»« Pouf !»« Bah, vous avez bonne mine. Et le Caire est drôle ?»« Bah, pas trop. Ah, ça, dites-moi, Camors, c'est véritablement Dieu qui vous envoie. »« Croyez-vous, mon prince ? Pourquoi donc ça ?»« Parce que... Je vais vous dire cela tout à l'heure, mais auparavant, narrez-moi votre affaire. »« Quelle affaire ? Votre duel pour Sarah. »« C'est-à-dire contre Sarah. Qu'est-ce qui s'est donc passé ? Je suis cela très vaguement, moi, là-bas. Mon Dieu, mon cher ami, c'était une bonne action que j'avais voulu faire et, suivant l'usage, j'en étais puni. J'avais entendu conter que cet imbécile de la Brède empruntait de l'argent à une petite sœur qu'il a pour le répandre aux pieds énormes de Sarah. Cela m'était fort égal, vous pouvez croire. Mais enfin, cela m'agaçait. Je ne pus m'empêcher de lui dire un jour au cercle. Vous avez pourtant joliment tort, la brèche, de vous ruiner et surtout de ruiner mademoiselle votre sœur pour un escargot aussi peu sympathique que Sarah. Une fille qui est toujours enrhumée du cerveau et qui d'ailleurs vous trompe. « Me trompe ?» répéta la brèche en agitant ses grands bras. « Me trompe ? Et avec qui ?»« Avec moi. » Comme il sait que je ne mens jamais, il a voulu me tuer. Heureusement, j'ai la vie dure. « Vous l'avez planté dans son lit pour 3 mois, m'a-t-on dit. Tout au plus. Eh bien, maintenant, cher ami, rendez-moi un service. Je suis un ours, moi, un sauvage, un revenant. Aidez-moi à me remettre dans le mouvement, hein ?» Allons souper avec des personnes enjouées et de vertus plus que médiocres. Cela m'est recommandé par les médecins. Du Caire ? Rien de plus facile, mon prince. Une heure plus tard, Louis de Camors et le prince d'Hérolles, en compagnie d'une demi-douzaine de convives des deux sexes, prenaient possession d'un salon de restaurant dont on nous permettra de respecter le huis clos. Aux lueurs pâles de l'aube, ils sortirent. Et il se trouva qu'à ce moment même, un chiffonnier à longue barbe grise errait comme une ombre devant la porte du restaurant, piquant de son crochet l'état d'immondice qui attendait le balai de la voirie municipale. Camors, enfermant son porte-monnaie d'une main peu assurée, laissa échapper un louis qui alla se perdre au milieu des débris fangeux accumulés contre le trottoir. Le chiffonnier leva la tête avec un sourire timide. « Ah, monsieur, dit-il, ce qui tombe au fossé devrait être soldat. »« Ramasse-le avec tes dents, dit Camors, et je te le donne. » L'homme hésita. Et rougit sous son hâle. Puis il jeta aux jeunes gens et aux femmes qui riaient autour de lui un regard de haine mortelle et s'agenouilla. Il se coucha la poitrine dans la boue et, se relevant l'instant d'après, leur montra la pièce d'or serrée entre ses dents blanches et aiguës. Cette belle jeunesse applaudit. Il sourit d'un air sombre et tourna le dos. Hé, l'ami, dit Camor en le touchant du doigt, veux-tu gagner 5 louis maintenant? Donne-moi un soufflet, ça te fera plaisir, et à moi aussi. L'homme le regarda en face, murmura quelques mots indistincts, et le frappa soudain au visage avec une telle force qu'il l'envoya culbuter contre la muraille. Il y eut un mouvement parmi les jeunes gens comme s'ils allaient se précipiter sur la barbe grise. « Que personne ne le touche !» dit vivement Camor. « Tiens, mon brave, voilà tes 100 francs. »« Garde-les, dit l'autre, je suis payé. » Et il s'éloigna. « Bravo, Bélisère !» cria Camor. « Ma foi, messieurs, je ne sais pas si vous êtes comme moi, mais je suis réellement enchanté de cette petite fête. Je vais y rêver. Bonjour, mesdames. Au revoir, prince. » Un fiacre matinal traversait la rue. Il s'y jeta et se fit conduire à son hôtel rue Barbet de Jouy. La porte de la cour était ouverte. Un reste d'ivresse l'empêcha de remarquer un groupe de domestiques et de voisins qui stationnaient en désordre devant les écuries. Ces gens firent brusquement silence en l'apercevant et le regardèrent passer en échangeant de muettes démonstrations de sympathie et de compassion. Il occupait le second étage de l'hôtel. Comme il montait l'escalier, il se trouva tout à coup en face du valet de chambre de son père. Cet homme était fort pâle. Il tenait un pli cacheté qu'il lui présenta d'une main tremblante. « Qu'est-ce que c'est donc, Joseph ? » dit Camor. « C'est une lettre que monsieur le comte a laissée pour monsieur avant de partir. » « Avant de partir ? Mon père est parti. Où cela ? Comment ? Pourquoi pleurez-vous ? » Le domestique, à qui la voix manquait, lui remit le pli. « Mon Dieu, qu'est-ce que c'est ? Pourquoi y a-t-il du sang là-dessus ? » Il ouvrit l'enveloppe à la hâte et lut les premiers mots. « Mon fils, la vie m'ennuie. Je la quitte. » Il n'alla pas plus loin. Le pauvre enfant aimait son père malgré tout. Il tomba raide sur le palier. On l'emporta dans sa chambre.